À la une ce matin, l'alerte d'un syndicat de l'hôpital contre des hausses de salaires excessives. On fera demi-tour aussi sur le CAVA. Le gouvernement veut finalement mieux cadrer sa vente. Et puis, on terminera avec cet accord international qui concerne les atolls. Le journal de la rédaction, présenté par Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence par cette nouvelle grogne sociale à l'hôpital.
Oui, une grogne assez inédite puisqu'un syndicat, la FISAP, conteste des hausses de salaire. Ces augmentations sont prévues pour une partie du personnel, les infirmiers, qui attendent depuis de longues années un reclassement et des revalorisations. Seulement celles qui sont proposées par le gouvernement, étonnamment, eh bien, elles sont jugées excessives par le syndicat de Mireille Duval, Charles Irénée.
Oui, et la FISAP avait déjà rué dans les brancards à ce sujet. Rappelez-vous, la mi-septembre, la réforme très attendue des cadres d'emploi des infirmiers était déjà arrivée jusqu'à la séance plénière de l'Assemblée, s'apprêtait à être votée mais avait été retirée in extremis de l'ordre du jour. Eh bien, c'était déjà le syndicat de Mireille Duval qui était à la manœuvre. Une nouvelle mouture doit être présentée ce vendredi en Conseil supérieur de la fonction publique, mais l'ancienne cadre de CSTPFO, qui visait un temps la tête de la centrale avant de s'en séparer, reproche au texte des augmentations trop élevées pour les infirmiers du secteur public, surtout dans le contexte de rigueur budgétaire du pays. À l'entendre, ces dépenses inconsidérées vont non seulement lever d'autres revendications du côté des médecins notamment, mais vont surtout hypothéquer les chances des autres catégories d'agents en bas de l'échelle d'être revalorisés. En clair, augmenter tout le monde ou personne, voilà le message au gouvernement.
Et la FISAP estime même que le texte menace la paix sociale et le syndicat n'hésite pas à parler de conflits à venir sur le sujet. Aucun autre syndicat de l'hôpital ne partage toutefois cette position, mais personne n'est réellement étonné, Charlie.
Oui, et pour une raison simple, les élections approchent dans la fonction publique territoriale et la campagne est particulièrement relevée au Taonnais, où ce sont plus de 2000 salariés qui vont voter début décembre pour leur commission administrative paritaire. Un scrutin qui définit entre autres la répartition des heures de délégation syndicale et dans lequel la fédération de Mireille Duval a gros à jouer. Elle divise pour mieux régner, accuse ses concurrents qui refusent que ce reclassement des infirmiers mené voilà plus de 15 ans en métropole soit bloqué à des fins électorales. L'objectif de cette réforme était clair, attirer et fidéliser les soignants, notamment les plus spécialisés, alors que la santé publique polynésienne a de plus en plus de mal à recruter.
Voilà, et la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique est prévue ce vendredi pour se pencher sur ces revalorisations dont le coût est estimé à un peu plus de 200 millions de francs supplémentaires. À noter que d'autres chantiers de reclassement ou de revalorisation ont aussi été lancés pour d'autres catégories de personnel hospitalier.
2300 à 3400 emplois supplémentaires, c'est le plan stratégique emploi formation compétences.
Il a été présenté hier en Conseil des ministres par Vanina Crolla, un plan qui doit être développé jusqu'à 2028 et qui vise avant tout les secteurs stratégiques comme le tourisme, l'énergie, le numérique ou l'agriculture. Il s'agit de mieux anticiper les besoins du marché du travail, d'adapter et de rendre plus lisible l'offre de formation, de moderniser les outils de recherche pour les demandeurs d'emploi et aussi de réformer la loi sur l'emploi local pour garantir une réelle priorité aux Polynésiens et ainsi de réussir à ouvrir 2300 à 3400 emplois supplémentaires.
On parle aussi de ce demi-tour sur le CAVA.
C'était oui et c'est finalement non. Le gouvernement avait levé les restrictions d'import et de vente des racines et des préparations de cette plante aux propriétés psychotropes. Mais finalement, il vient de prendre un arrêté pour mieux cadrer sa mise sur le marché en cause des effets et des risques sur la santé. Le pays semble surtout vouloir éviter le développement sauvage de Nakamal, ces bars à cava très populaires en Nouvelle-Calédonie ou au Vanuatu.
Et après la quatrième commission, Moeté Brotherson est toujours à New York.
Où il a enchaîné les rencontres bilatérales. Il s'est entretenu avec les représentants du Guatemala, de Sainte-Lucie, du Timor-Leste ou du Venezuela, tous très impliqués dans les travaux relatifs à la décolonisation. Pour le président du pays, la voix polynésienne est de plus en plus visible.
À 7h04 dans ce journal de la rédaction, on part au tribunal, Lucie, le tribunal qui poursuit sa mue vers le numérique.
Le 15 mai 2024, pour la première fois, une procédure pénale était enregistrée et signée au commissariat central de Papeete, transmise et classée au palais de justice sans jamais être imprimée sur du papier. La Polynésie faisait alors partie des derniers territoires à entamer sa transition vers la procédure pénale numérique et elle s'est bien rattrapée car depuis, ce sont 6500 procédures numériques qui ont été transmises entre les forces de l'ordre, le parquet, les magistrats, mais aussi les avocats, les services pénitentiaires et d'autres partenaires. Une avancée qui lui a valu une certification nationale de tribunal pénal numérique. Cette certification n'est pas seulement un bon point interne à l'administration, mais aussi un encouragement à continuer. On écoute la présidente du tribunal de première instance de Papeete, Laure Camus.
Ça nous évite de faire du fret de dossiers qui pouvaient être très longs et donc pas très réactifs. Ça permet à plusieurs services de travailler en même temps qui soit dans une île ou à Tahiti sur un même dossier. Et ça nous permet aussi d'éviter parfois des pertes de documents qu'on devait refaire tout en gardant du papier vis-à-vis des justiciables. On leur remet les documents, il n'y a pas de fracture numérique pour le justiciable. Pour lui, on lui rend le même service, on lui donne le même document. C'est vraiment pour nous, dans nos échanges avec les professionnels, dans notre réactivité, qu'on a un réel gain.
Seule différence constatée ces derniers mois par les habitués des salles de déposition ou d'audience, des signatures sur pad et plus sur papier et des magistrats plongés dans des écrans plutôt que dans d'épais dossiers. Toute la chaîne judiciaire ne s'est pas encore privée de papier, beaucoup de documents d'instruction s'entassent encore dans des chemises et des unités spécialisées restent encore à être intégrées dans le système.
Alors ça se poursuit puisqu'on a encore des partenaires avec qui on aimerait conventionner pour finaliser, mais on a vraiment ouvert toutes les filières. La dernière est très récente sur les alternatives aux poursuites, c'est-à-dire que désormais aussi les délégués du procureur vont travailler de manière nativement numérique. Les dossiers commencent juste à arriver, donc ce n'est pas fini. On a fait aussi une filière expérimentale pour laquelle on est vraiment en travail et on verra si ça devient concret et si ça peut être produit ailleurs en France.
Voilà des propos recueillis par Charlie René.
On reste au tribunal, Lucie, avec ces élections prévues aujourd'hui.
Plus de 30 000 chefs d'entreprise sont appelés aux urnes pour élire les prochains juges consulaires du tribunal mixte de commerce. Pendant 4 ans, ces juges vont se pencher bénévolement sur les litiges entre entreprises et sur les procédures de redressement ou de liquidation. 6 sièges sont à attribuer parmi 11 candidats, dont 4 étaient déjà juges lors du dernier mandat. Le bureau de vote ouvre au commissariat de 8h à 16h.
Et tribunal toujours avec ses affaires à la barre hier.
D'abord ce trentenaire condamné à 4 ans de prison, dont un avec sursis pour des violences conjugales. Une affaire qualifiée de tentative de meurtre et passible des assises qui a finalement été requalifiée en violence sur concubine et a donc été jugée en correctionnel. Hier à la barre, c'est toute l'histoire d'un couple qui a été entendue. Une histoire marquée par la violence physique mais aussi psychologique. Et puis 4 personnes ont été entendues pour culture et vente de cannabis. C'était en janvier dernier que la gendarmerie a retrouvé des pieds et du cannabis séché, valeur estimée 35 millions de francs. Sur les 4 mises en cause, 2 étaient sans domicile fixe. Ils avaient été recrutés par l'instigateur du trafic. Tous ont écopé de peines allant de 18 mois avec sursis à 5 ans ferme. Pour la défense, ce dossier reflète l'exploitation de la misère.
Et en bref, la gendarmerie a lancé 2 appels à témoins hier.
Un premier pour retrouver une adolescente de 14 ans, Maruhi Teragihei, qui est portée disparue depuis la fin du mois d'août. Elle a quitté le foyer pour fille de Paya pour aller chez sa grand-mère à Punaouya où elle a été vue pour la dernière fois. Les gendarmes demandent d'appeler au 40 50 75 05 si vous la voyez ou avez des informations. Et la gendarmerie est aussi à la recherche d'un détenu de Tatoutou qui n'a pas réintégré sa cellule après une permission. Teva Nigel, 48 ans, a laissé un message exprimant des idées suicidaires. Il faut contacter le 40 54 80 05 si vous avez des informations.
Vous écoutez le journal de la rédaction sur Radio 1 et Thierry FM, il est 7h08 et après le congrès mondial de la nature, c'est à Abu Dhabi et ça commence aujourd'hui.
Et oui, on vous en parle car des motions ont déjà été adoptées avant même que cette réunion internationale commence, dont une sur les lentilles d'eau douce des atolls. C'est la première fois qu'un texte de portée internationale concernant ces écosystèmes est adopté. Le bureau d'études spécialisé en hydrologie Veille Natura salue une victoire importante. On écoute la responsable hydrologie et stratégie Anne Caillot.
C'est la première fois qu'un texte est adopté au niveau international sur les lentilles d'eau douce des atolls. C'est un sujet qui est assez méconnu en fait au niveau mondial, le fait que l'eau douce dans les atolls, c'est assez particulier. C'est en fait un aquifère qui se trouve sous les motons et qui est très fragile parce qu'il y a l'eau de mer, du lagon et l'eau de l'océan qui rentre par les deux côtés. Et donc si on l'appuie trop, elle peut très vite se saliniser.
Alors comment se forment ces lentilles d'eau douce? Pas de rivière ni de lac sur les atolls, mais des réserves en sous-sol où l'eau douce forme une nappe au-dessus de l'eau salée. Les grosses houles ou une utilisation excessive peuvent rompre l'équilibre fragile de cet écosystème et il faut beaucoup de temps pour qu'elle revienne à son équilibre original, comme l'explique Anne Caillot.
Il faut au moins 9 mois pour que la lentille d'eau en fait retrouve sa salinité d'avant. Donc c'est quand même un processus assez long. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lentille d'eau, c'est pas comme une baignoire, c'est-à-dire que ça se recharge pas quand la pluie tombe, parce qu'en fait il y a un effet avec la densité du sable, etc. Il y a un effet où la pluie se rejette directement dans le lagon quand la lentille d'eau est pleine. En fait, c'est un processus de recharge qui est très très lent et c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à un moment où la lentille se salinise parce qu'après ça va remettre au moins 9 mois, on l'a vu, et peut-être plus pour se recharger. Ça dépend si on pompe ou si on ne pompe pas.
Le laboratoire Vein Natura qui travaille sur ces écosystèmes depuis 7 ans maintenant, mais c'est une exception. Ces lentilles d'eau douce dans les atolls sont encore peu étudiées. L'adoption de cette motion à Abu Dhabi, c'est la preuve pour Vein Natura que protéger les lentilles d'eau douce des atolls, c'est une affaire internationale, un sujet sur lequel la Polynésie est en première ligne. Voilà, c'est la fin de ce journal. À noter que Meriana Red Arbelot sera l'invitée de la rédaction de Radio 1 et Thierry FM ce matin. La députée indépendantiste répondra à nos questions sur la situation politique à Paris, les conséquences sur l'activité parlementaire et la Polynésie, sur le colloque sur le nucléaire en cours à l'université et ses travaux sur le sujet. Ce sera en direct à 11h30 et quant à moi, je vous retrouve à 7h30 pour la revue de presse.
Eh ben, on sera là, Lucie. Merci beaucoup et à tout à l'heure.